Emmanuel Bauve, le beau-fils. Chapitre 1. Ce fut bien avant la guerre, en 1904 exactement, que Mademoiselle Annie Villemur de Fallet fit la connaissance de Jean-Melchior Ettlinger. Elle avait 21 ans. Depuis plusieurs mois, elle suivait un cours mixte de peinture, non pas chez Julien ni à l'école des Beaux-Arts, mais dans une académie de la rue de la Grande Chaumière, ce dont elle était fière, ce choix ne pouvant qu'indiquer une vocation véritable. Elle partageait l'admiration des autres élèves pour les pré-raphaélites. Ses frères, ses amis, son père même, venaient parfois assister d'une embrasure à une séance de pose, un peu gênés quand le modèle était un homme nu, mais n'osant le dire, de peur de paraître pudibond. Annie était une grande jeune fille blonde, embarrassée de sa beauté, comme on l'est de sa jeunesse dans certaines professions. À force d'insistance, elle avait obtenu la permission de louer un atelier dans le haut de la rue d'Assas. Chaque semaine, elle y organisait de petites réceptions. Aux camarades de travail, pour la plupart des étrangers pauvres, ne manquait jamais de se joindre un membre de la famille Villemur qui veillait à ce que tout se passât convenablement. Ce fut justement à un de ces thés que le massier de l'académie, pour lequel Mademoiselle Villemur s'était prise de sympathie, parce que, comme tous les massiers, il avait été choisi parmi les élèves les plus méritants de la classe et qu'elle gardait de son éducation l'habitude d'être compatissante, lui amena un de ses amis, homme sombre, âgé d'une trentaine d'années, portant une barbe en pointe, vêtu assez cérémonieusement d'une jaquette. C'était le fils d'un professeur de Mulhouse, connu pour ses sentiments francophiles. À la mort de ce professeur, survenu en septembre 1895, Jean-Melchior Ettlinger, dont la majorité avait été fêtée en février de la même année, son frère aîné Martin et sa jeune sœur Catherine avaient vendu la maison paternelle et étaient venus se fixer à Paris, les garçons avec le désir de continuer leurs études, la fille avec celui de faciliter la tâche de ses frères en leur épargnant tout souci domestique. Ils s'étaient installés rue Pierre-Nicole dans un logement de deux pièces et une cuisine. Au commencement, ils demeurèrent parfaitement unis. La jeune fille ne sortait pas. Les deux frères ne se quittaient que pour suivre leurs cours. Si parfois l'un d'eux avait l'envie de visiter un musée, il en faisait part à son frère, lequel consultait Catherine. Finalement, quand ils étaient tous d'accord, mais pas avant, ils prenaient cette distraction. N'ayant pour toute fortune qu'un modeste héritage qui devait les faire vivre jusqu'à la fin de leurs études, ils se serraient instinctivement l'un contre l'autre, à la fois par économie et pour écarter ces tentations dont ils avaient entendu parler au cours de leur jeunesse. Mais bientôt, Jean-Melchior se laissa aller à de petites trahisons. Peu à peu, il s'était enhardi. Les dangers contre lesquels on l'avait mis en garde lui étaient apparus moins grands. De santé fragile, d'un naturel indolent, il n'était fait pour aucun travail suivi. La paresse et la flânerie lui convenaient mieux que cette vie avec emploi du temps de la rue Pierre-Nicole. Quand, 4 mois plus tard, il tomba amoureux d'Ernestine Mercier, qui, de l'âge de 17 ans à celui de 31 ans, avait vécu tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, toujours avec l'espoir que chacun de ses amants serait le dernier, il hésita longtemps à l'avouer. Ce ne fut que lorsqu'il ne put faire autrement qu'il ouvrit son cœur. Martin entra dans une vive colère. Jean-Melchior ignorait encore que lorsque nous nous retirons d'une association, même si, en le faisant, nous favorisons ceux qui la respectent, on nous en garde rancune. Il fut mis en demeure de choisir. Durant un mois entier, il ne put se décider. Dès 17 heures, il avait de la fièvre. Il aimait son frère et sa sœur plus que tout au monde, plus, bien plus qu'Ernestine Mercier, mais celle-ci, c'était le plaisir, mille choses qu'il n'avait pas auprès des siens. Enfin, quand il comprit qu'il lui fallait prendre un parti, qu'il ne pouvait atermoyer plus longtemps, il fit sa malle, embrassa Catherine longuement, demanda à Martin de lui pardonner. Celui-ci, écartant les sentiments, lui parla argent. Il fut entendu qu'il lui remettrait ce qui lui revenait, déduction faite de sa participation au loyer. Jean-Melchior s'en fut ensuite retrouvé Ernestine Mercier. Elle ne s'attendait pas à une telle preuve d'amour. Aussi, les premiers jours, n'osa-t-elle demander à Jean Melchior dans quelle situation le mettait ce geste. Elle s'efforça de se montrer digne du sentiment qu'elle inspirait. Mais quand elle apprit que Jean Melchior avait un peu d'argent, qu'il se disposait à vivre modestement, de manière à être à même de terminer ses études, elle se moqua de lui. Elle le convainquit que la jeunesse n'avait qu'un temps, qu'on ne savait pas de quoi demain sera fait, qu'il fallait profiter de la vie quand on le pouvait. Ils habitèrent un hôtel confortable, prirent leur repas non plus dans des crèmeries, mais dans des brasseries où ils s'attardaient, au milieu d'amis bruyants, jusqu'à 3 heures du matin. Elle aspirait pourtant à devenir une petite bourgeoise considérée, mais plus tard, quand elle rencontrerait un homme qu'elle aimerait vraiment. À cause de sa maîtresse, et surtout à cause de la fièvre que lui donnait le moindre effort, Jean Melchior avait presque complètement abandonné ses études. Il se levait tard, fréquentait les amis d'Ernestine, avec lesquels il n'avait aucun point commun. Quant à son avenir, il était incapable de se le représenter. Il se laissait vivre au jour le jour, poursuivant sans cesse Ernestine de sa jalousie et de sa tendresse, s'enfermant à la moindre contrariété dans un mutisme qui durait plusieurs jours et duquel il sortait brusquement aigri, mais toujours épris. Au bout d'un an, il ne lui resta presque rien de la part d'héritage que Martin lui avait remise. Il lui fallut songer à vivre plus économiquement, d'autant plus que sa santé commençait à se ressentir de ses dérèglements. Ils louèrent un petit appartement, le meublèrent simplement. « Nous avons été inspirés !» lui dit Ernestine, un soir étouffant d'août 1897. Il ne comprit pas ce qu'elle entendait. Elle ne voulut pas s'expliquer, mais la nuit, dans ce lit qu'elle appelait son domaine, et dont elle s'était fait un complice, ayant à ses yeux autant de relief qu'un être vivant, elle apprit à Jean Melchior, avec des minauderies insupportables, qu'il allait être père. Par la suite, il ne se passa pas de jour qu'elle ne lui signala les devoirs qui lui encombraient. Leur nombre s'accroissait indéfiniment, sans éclipser pourtant le principal, à savoir qu'il allait être obligé de l'épouser. Pourtant, si Jean Melchior ne tenait plus à se marier, c'était sa faute à elle. Il lui avait demandé, non pas qu'il en eût eu le désir, car en quittant son frère et sa sœur, c'était à toute autre chose que fonder un foyer qu'il avait songé, mais à cause d'un scrupule venant de son éducation qui lui faisait difficilement concevoir l'amour en dehors du mariage. En lui ôtant ce scrupule qu'il ne demandait qu'à perdre, Ernestine n'avait pas prévu que les arguments dont elle s'était servie se retourneraient contre elle. Jean Melchior ne pouvait croire que cette même femme qui avait accueilli ses supplications par des moqueries, cela au moment où il était en possession de son héritage et où elle eût eu tout intérêt à l'épouser, fut sincère dans son désir de se marier, à présent qu'il n'avait plus rien et qu'il courait les rues à la recherche de leçons d'allemand. Aussi lui répondit-il chaque fois distraitement, convaincu qu'il avait été par Ernestine elle-même que cette question de mariage était sans importance. Fin avril 1898, un enfant, qu'on prénomma Jean-Noël, naquit. La situation du ménage ayant encore empiré, Jean Melchior demanda un secours à Martin. Quand celui-ci apprit que son frère avait dépensé tout ce qu'il possédait, qu'il vivait en outre avec une femme dont il venait d'avoir un fils, il le pria de ne plus revenir rue Pierre-Nicole. De ce jour, les soucis devinrent plus nombreux. À part sa famille, pour laquelle il avait toujours le même sentiment et dont la dureté l'avait plus peiné que révolté, il ne connaissait que des étudiants pleins de cette générosité de la jeunesse, mais incapables de l'aider ou de le guider. Malgré les obstacles chaque jour plus difficiles à surmonter, malgré l'insistance d'Ernestine, il ne voulait d'aucun emploi fixe car il lui était apparu que ce n'était qu'en achevant ses études qu'il aurait la possibilité de sortir de ce mauvais pas. De temps en temps, il donnait une leçon ou bien il prenait un poste quelconque qu'il abandonnait 2 mois plus tard. Au milieu d'une pareille existence, le désir qu'avait eu Ernestine de devenir la femme de Jean Melchior s'était évanoui. L'idée de bonheur attachée au mariage en eût rendu pénible la célébration dans de pareilles circonstances. Plusieurs années s'écoulèrent ainsi dans la pauvreté et l'amertume. Les rapports de Jean Melchior et de sa compagne étaient de plus en plus tendus. Elle lui reprochait de lui avoir donné un enfant, tout en sachant ne pas avoir de quoi l'élever. Si elle était si malheureuse, c'était parce qu'elle était la naïveté même et qu'elle avait cru à toutes ses promesses. À chaque instant, elle le menaçait de le quitter, et si, accablée, il ne la suppliait pas de n'en rien faire, elle se mettait à sangloter en disant qu'il ne l'aimait pas, qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour se débarrasser d'elle. Jean-Noël était déjà âgé de 7 ans lorsque Jean Melchior fut présenté à Mademoiselle Villemur de Falais. Le monde qu'il entrevit autour de la jeune fille, l'atmosphère insouciante qui régnait dans l'atelier, firent sur lui un effet extraordinaire. Il revit Annie. Un jour, comme il se trouvait seul avec elle, il lui raconta sa vie. Ce récit la bouleversa. Dès le début, elle avait eu de la sympathie pour cet homme maladif, dont la sincérité la surprenait. Bien qu'elle le connût à peine, il ne lui inspirait aucune méfiance, aucune crainte. Il représentait à ses yeux tout ce qu'elle ignorait et que, malgré cela, elle se sentit tellement en sécurité en sa présence, l'emplissait de fierté. Quand, 6 mois plus tard, Annie parla à sa famille de son désir d'épouser un jeune homme qu'elle avait connu à l'académie, ce qui n'était pas tout à fait exact, elle se heurta à une opposition inébranlable. Son père l'obligea à quitter son cours, son atelier. Il lui interdit de revoir tous les amis sans exception qu'elle s'était fait en dehors de sa famille. Des complications insurmontables surgirent alors. Elle aimait Jean Melchior. Il était à ses yeux un homme exceptionnel, supérieur même aux artistes qu'elle avait admirés. Ne lui avait-il pas dit, lorsqu'elle lui avait appris la colère de son père, qu'une jeune fille doit avant tout respecter la volonté de sa famille et que c'était faute de l'avoir fait lui-même qu'il avait été si malheureux. Elle n'en continua pas moins à le voir à l'insu de ses parents. Quand ceux-ci l'apprirent, ils ne purent le croire. Annie n'était-elle pas la franchise même ? Elle ne leur avait jamais caché quoi que ce fût. Une grande scène eut lieu, avenue de Malakoff, chez les Villemur. Il s'agissait de savoir si Annie avait vraiment l'intention d'épouser un petit Alsacien malade, sans fortune, sans avenir, déjà père d'un enfant. Elle répondit que c'était justement pour toutes ces raisons qu'elle aimait Jean Melchior. M. Villemur comprit que sa fille ne céderait pas. Durant un instant, son visage eut cette expression qu'a celui des hommes qui luttent contre eux-mêmes. Il pria Annie de le suivre. Il se rendit dans son cabinet de travail. Il était très calme. Pourtant, il passait plus souvent que de coutume les bouts parfaitement alignés de ses doigts sur ses sourcils. « Tu veux te marier, » dit-il posément, « c'est ton droit. Mais je te demanderai de me présenter l'homme que tu as choisi. » « J'ai voulu le faire plusieurs fois, tu as toujours refusé. Aujourd'hui, j'ai changé d'avis. » L'entrevue eut lieu. Dès que M. Villemur aperçut Jean Melchior, il se rendit immédiatement compte que l'espoir auquel il s'était raccroché était chimérique. Comment avait-il pu croire que ce M. Ettlinger serait différent de ce qu'il avait imaginé ? C'était bien le personnage terne, à l'aspect maladif, se donnant le genre d'un artiste, qu'il avait reconstitué avec ce qu'Annie avait raconté de lui. Quand il fut seul avec sa fille, il ne jugea même pas utile de lui faire part de l'impression qu'avait faite sur lui Jean Melchior. Il se contenta de lui dire qu'elle était libre d'épouser M. Ettlinger, que si elle le faisait, il lui remettrait sa dot, mais qu'il ne faudrait plus qu'elle songeât à revoir sa famille. Ceci admis, elle pouvait quitter la maison le soir même. Pendant qu'Annie se débattait avec ses parents, car d'autres scènes de ce genre suivirent, Jean Melchior préparait doucement Ernestine à une séparation. Il la désirait d'ailleurs depuis longtemps. Après la naissance de Jean-Noël, c'est-à-dire à partir du moment où Ernestine commença à tenir vraiment à lui, il avait déjà songé à reprendre sa liberté. Mais avant, il devait assurer la vie matérielle de celle qui, à l'entendre, lui avait donné les plus belles années de sa vie. Il n'en avait pas eu la possibilité. Le temps avait passé, les éloignant chaque jour davantage, si bien que lorsqu'il avait été conduit rue d'Assas, s'il avait pu sans mentir se présenter ainsi qu'un homme libre, il n'en était pas moins prisonnier comme au début de sa liaison. Libre, il l'était. Dès le matin, sous prétexte de chercher un argent qu'il ne trouvait que rarement, il quittait sa maîtresse pour ne rentrer que lorsqu'elle dormait. Mais, à transformer cette séparation morale en une séparation de fait, la difficulté était aussi grande que s'ils avaient été parfaitement unis, Ernestine feignant à la fois de lui être profondément attachée et d'adorer ce même enfant qu'elle ne faisait que maltraiter. Le lendemain du jour où Jean Melchior avait rencontré M. Villemur, il se décida à attaquer franchement. Il dit à Ernestine que Jean-Noël grandissait, qu'il était à un âge où on commence à garder le souvenir de ce qu'on voit, qu'il était nécessaire de s'occuper sérieusement de son éducation et que, en conséquence, et parce qu'il ne pouvait faire autrement, il projetait de faire un mariage de raison. Il eut la faiblesse d'ajouter que la vie est ainsi faite qu'elle nous oblige souvent de sacrifier nos sentiments à l'intérêt. Ernestine entra dans une colère telle qu'il fallut lui donner les soins comme à un enfant atteint de convulsions, si bien que le calme, lorsqu'il revint, par le contraste qu'il fit avec les crises et les menaces qui l'avaient précédé, eut l'aspect d'une capitulation. Ernestine ne s'était pourtant pas résignée. Un mois plus tard, avec les mêmes simagrées que la première fois, elle annonça à Jean Melchior qu'elle était enceinte. Il ne voulut pas la croire. Il la conduisit chez un médecin. Elle l'était vraiment. Mademoiselle Villemur venait justement de quitter sa famille et de s'installer dans un hôtel dont le nom l'avait amusée chaque fois qu'elle avait traversé la place du Panthéon, l'hôtel des grands hommes. Il alla l'y retrouver, lui raconta ce qui venait de se passer, de peur qu'elle ne l'apprît de quelqu'un d'autre, et laissa entendre qu'il s'agissait d'un mensonge odieux. Il n'en avait pas la conviction, mais comme il n'avait pas non plus celle du contraire, ce fut avec tant d'indignation qu'il s'éleva contre ce qu'il appela une manœuvre désespérée. Qu'Annie, bien qu'elle fût profondément humiliée, le crut. « Cette femme est capable de tout, » dit-elle. Au printemps 1906, Jean Melchior et Annie se marièrent. Mais si ce mariage était mal considéré par les Villemur, il était trop bien par les Ettlinger. Ce fut donc pour fuir les parents d'Annie, qui malgré l'indifférence qu'ils simulaient ne désarmaient pas, et ce frère de Jean Melchior, devenu subitement autre, et cette Ernestine Mercier qui continuait à se faire appeler Madame Ettlinger et qui parlait de sa grossesse à qui voulait l'écouter, que les nouveaux mariés décidèrent de se fixer à Nice, ville dont le climat serait excellent pour Jean Melchior et où il serait aisé de donner à Jean-Noël une solide instruction. Mais quand le moment vint de prendre l'enfant, de nouvelles difficultés surgirent. Malgré l'acquiescement qui lui avait été arraché contre une certaine somme d'argent, Ernestine Mercier ne voulut pas s'en séparer. Jean Melchior se trouva réduit à procéder à un véritable enlèvement. Ce fut dramatique. Ernestine Mercier appela les voisins à l'aide, leur parla de son état, de l'inhumanité de l'homme pour lequel elle avait sacrifié sa vie. Finalement, tout s'arrangea et Jean Melchior put emmener son fils qui pleurait et tremblait de peur.